Un gang de goons qui rue dans le bacu et pète sa coche. En français, dans le texte, avec lexique. Et des mots naissent, des paysages, des personnages, des légendes, un pays. Une langue proche et moins proche.
De vive voix.
Pascal Paradou.
Il s'appelle Chiquan, Gagnon, Toussaint, Yacine, François et Lamélis. C'est le gang du Nord qui ravage le pays et soulève un vent de liberté dans le roman de Mathieu Blé, Brûlé debout. Premier roman publié en France de cet auteur québécois. Bonjour Mathieu Blé.
Bonjour, bonjour.
Premier roman en France, pour autant vous écrivez et publiez depuis combien de temps?
Ça va faire 20 ans cette année que j'ai publié mon premier recueil de poésie. J'ai commencé en poésie donc à Montréal, à Trois-Pistoles. Plus exactement, la première publication.
Donc poésie, nouvelles, pas mal de nouvelles, oui. et des romans.
Oui, en fait, c'est exactement paritaire. 6 recueils de poésie, 6 recueils de romans. Et là, je me lance dans le roman jeunesse.
Ça, c'est pour le prochain.
Oui, c'est ça, voilà.
En tout cas, il n'y a pas, comme vous êtes québécois et que vous écrivez en français, il n'y a pas de problème de traduction. Pourquoi c'est si compliqué pour traverser l'océan pour un écrivain qui vit au Québec?
C'est une excellente question. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas dans les secrets des éditions, des transactions éditoriales comme ça. Mais sur la langue, à mon sens, il n'y a aucune raison qui ne justifie pas qu'il y ait de plus grand transfert ou transport d'un livre d'un océan à un autre, d'un continent à un autre. Non, au contraire, je pense qu'on a beaucoup à apprendre l'un de l'autre, surtout sur la langue, surtout sur l'inventivité de la langue que les Québécois proposent.
Vous en rêviez d'être publié en France par une maison d'édition française?
Vous en foutez?
Non,
je m'en fous pas. Je reçois ça avec beaucoup d'amour et de joie. Et je suis très content parce que ça m'amène justement à la rencontre des autres. C'est ça, la littérature, au fait. C'est des rencontres. C'est des propositions de rencontres, au final. Est-ce que j'en rêvais? Je sais pas. Mais c'est sûr que c'est un grand honneur de pouvoir y être. On était à la foire du livre de Bruxelles. Et j'étais fasciné de rencontrer justement toute une autre catégorie de lecteurs qui sont là, de lectrices qui sont là.
Alors, on est en pleine semaine de la francophonie, ça ne vous a pas échappé. Le 20, c'est la journée internationale de la francophonie. Est-ce que ce mot-là vous parle? Est-ce qu'il fait sens, sachant que le français est une langue du Canada, mais qu'il y a, me semble-t-il, toujours un sentiment d'insécurité chez vous?
Bien sûr que ça me parle. Toute l'histoire du Québec est construite autour de la question de la langue. Le Québec est une survivance du fait français en Amérique et c'est le principal espace où on défend la langue française en Amérique. On est quoi? 9 millions d'habitants au Québec. On est organisé, structuré, il y a un État. J'entends ce que vous me dites quand vous me dites qu'on parle français au Canada. Mais en fait, on parle français surtout au Québec. Et le Québec s'est structuré autour de cette langue-là. Alors, oui, en fait, si on parle français en Amérique, encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu cette défense et cette mise en vie de la langue au Québec. Et on a su maintenir cette vie-là, cette langue-là, vivante, enfin, il me semble. Oui, oui, c'est terriblement important.
Question de Parisien, vous avez l'impression de parler français ou québécois? Quand je dis question de Parisien, ça fait un peu snob, vous voyez.
moi, je parle québécois, j'assume complètement mon québécisme, c'est clair. Mais là, je dois admettre que depuis que je suis à Bruxelles et à Paris, je fais attention. Donc, je me contrôle un petit peu. Et l'idée, c'est de se faire comprendre, hein, donc, au final.
Alors, dans votre roman Brûlé debout, il y a beaucoup de termes québécois. Il y a donc un lexique, d'ailleurs, à la fin, si jamais on est un peu perdu. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Est-ce que c'est le propre de votre écriture en général, Mathieu Blé, ou c'est le propre de ce roman?
C'est très difficile comme question parce que, en fait, le lexique, il n'est pas dans l'édition québécoise, il est dans l'édition française. Et c'est une décision qu'on a prise ensemble avec mon éditrice. Et c'est une voie qui me semble très intéressante parce qu'elle permet d'aller plus loin dans la compréhension de certains termes. Donc, est-ce que c'est le propre de mon écriture ou est-ce que c'est le propre de ce livre-là? Je pense que c'est le propre de ma langue que je parle. C'est des mots que j'utilise. Pas tous les mots. Il y en a qui sont littéraires, que je vais chercher. Ce sont des archaïsmes. Là, je les réactualise, leur donne une nouvelle nature. Il y a une poésie dans la langue québécoise. Il faut l'entendre. Il faut entendre sa sonorité. Ça me semble clair. Mais oui, je joue avec la langue. Il faut la réinventer. Mais ce n'est pas le propre du Québec, ça, en fait. On pourrait aller en région française et avoir des expressions locales. Et là, on aurait la même inventivité. Là.
Mais alors, en lisant votre livre, qui est l'histoire d'une bande ensauvagée, comme diraient des ministres de l'Intérieur en France, qui se shootent à la violence, on se dit qu'ils ne peuvent pas parler comme des Parisiens. Vous voyez, j'y reviens. Donc, ils parlent vraiment avec l'accent, quoi, avec les mots, avec la parlure du Québec.
Ben, je vais même l'élargir un petit peu. Je dirais que la langue que j'essaie de mettre en place dans ce roman, c'est une langue des Amériques. Un français, ça c'est sûr. Un québécois, ça c'est sûr. Mais c'est aussi un français d'Amérique. Un français qui se gorge des mots anglais, qui va détourner, franciser, qui va emprunter des mots acadiens, qui tantôt va emprunter des mots qui vont être, je sais pas moi, complètement inventés au Québec ou propres, encore là, des néologismes ou des archaïsmes qui vont être remis au goût du jour.
Existe-t-il un argot québécois? Vous voyez, un argot du français québécois, c'est-à-dire ces mots du peuple, de la rue, ces mots de la pègre au départ, l'argot, c'est ça?
Oui, ben en fait, historiquement, on parlait du joual. Le joual, ça désignait le langage populaire. À la base, c'était le langage populaire parlé à Montréal, principalement, dans ces quartiers ouvriers. Le joual, joual, c'était la manière de prononcer cheval. Alors, le joual, j'ai un beau joual. Alors, on était dans le mot cheval. On est vraiment dans cette explication-là. Après ça, le joual, aujourd'hui, c'est plus largement accepté pour une espèce d'argot québécois. Mais pour moi, ça a quand même une connotation plus ancienne. Je ne suis pas sûr que c'est ça qui décrirait exactement. Par exemple, j'ai deux enfants. J'ai deux adolescents et je ne suis pas sûr qu'ils parlent le joual. Je suis dans la grande région de Montréal. Ils empruntent beaucoup à ce qu'ils entendent sur les médias sociaux et c'est souvent de l'argot français qu'ils vont aller puiser. Alors voilà, il y a un mélange des langues qui se fait encore aujourd'hui.
Alors en tout cas, sacré style que le vôtre, Mathieu Blais. Vous allez nous lire un extrait de votre roman. Mais après avoir écouté Iliona, c'est une artiste belge qui sort un premier album. What if I break with you, en français dans le texte.
Oh,
Fiona sur RFI, considérée par la presse spécialisée comme l'une des révélations de la chanson francophone, et l'on pourrait dire la même chose pour la littérature francophone avec Mathieu Blé et son roman Brûlé debout, qui est le récit d'une expédition de hors-la-loi tout au long de la route 165. Et elle est très importante, hein, cette route, Mathieu Blé, dans la géographie du Québec. Elle traverse du nord au sud.
En fait, c'est une route fictive. Elle est complètement imaginaire, la route. Mais elle permet de tirer une espèce d'espace, effectivement, qui permet de lier le territoire à la ville. Parce que c'est ça le grand enjeu au Québec. C'est que le territoire, il est là, il est immense. Mais pour y avoir accès, c'est ça. Rapidement, les routes disparaissent ou n'existent plus. Et là, on s'arrive à des petits chemins de traverse, des petits chemins forestiers, et la route disparaît.
Le roman se passe au Québec, très clairement?
Non. Il est évoqué. Et encore là, ça va avec l'idée qui était derrière le roman d'aller tirer une américanité qui était là. Donc, le territoire, des fois, ses contours s'effacent un peu pour laisser place. Mais on est clairement dans le nord de l'Amérique. On est assez clairement, je pense, pour quelqu'un qui est allé se promener au Québec, il va retrouver les repères pour le Québec, oui.
Mais ce pays est désigné comme un non-pays.
Bien sûr.
Pourquoi bien sûr?
Bien sûr, parce que c'est le Québec. Alors, c'est ce non-pays, c'est ce pays qui n'existe pas encore, mais qui existe dans le cœur de beaucoup de Québécois. C'est cette idée d'indépendance ou de souveraineté qui nous a longuement portés. Hein. Je le rappelle pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas. C'est-à-dire que le projet indépendantiste, le projet souverainiste au Québec, il est très fort. Il a été très fort. Aujourd'hui, je suis moins sûr qu'il est porté encore. Et s'il est porté, il n'est peut-être pas porté par les mêmes aspiration progressiste qu'il était dans les années 60-70, où on voulait effectivement faire un pays, mais un nouveau pays avec des idées fortes et autour d'une langue, la défense d'une langue, sortir d'une idée coloniale aussi. Aujourd'hui, je suis plus sûr que c'est ça qui est véhiculé dans l'idée d'indépendance.
Et dans ce pays, dans votre roman, il y a une bande, Chiquan, Gagnon, Toussaint, Yacine, François, qui travaillent dans une plantation d'épicéas, qui vont donc prendre la route, tuer et mettre le feu partout où ils passent. Pour quelle raison? Sans raison, a priori.
A priori, sans
ni
raison.
Ni loi, ni lutte.
Oui, je vous suis dans ce commentaire. C'est-à-dire, effectivement, a priori, ils n'ont aucune raison sinon d'être écœurés. Ils ont franchi une limite d'acceptation et là, tout à coup, les fils se touchent et ils disent non, ça suffit. Et là, après ça, le non, il devient très violent parce qu'ils vont décider de prendre des armes puis mettre à feu et à sang le territoire. C'est l'image du hors-la-loi américain, là, celui qu'on voit dans les grands films de western ou de la conquête de l'Ouest. C'est ça que j'ai tiré, mais dans un imaginaire nordique. Et là, tout à coup, on décide de vivre hors-la-loi. La loi dans un territoire en toute liberté, avec quelque chose de très assumé, parce que je crois que c'est dans l'air du temps. Je crois qu'on est dans cette époque et c'est pas exactement l'apologie de cette époque-là que je fais, hein, mais que l'époque, elle est arrivée à un point de rupture, un point de casse. On le voit, là, le géant Trump est en train de se lever, on voit les grands autoritarismes en train de paraître, et on sent cette violence qui gronde à quelque part et qui n'a pas réellement de projet politique pour canaliser celle-ci. Donc, c'est un peu les personnages qu'on retrouve, des personnages qui n'ont pas de projet politique, qui ne savent pas trop pourquoi, mais ils ouvrent cette violence-là, et cette violence-là, tout à coup, déferle sur le territoire.
Et c'est une bande d'hommes avec à leur tête une femme qui s'appelle la Mélisse. C'est elle qui mène. Et alors, elle a l'air incroyable, cette Mélisse. Elle est décrite comme une pitié, comme une poétesse, comme une femme magnifique et fougueuse. C'est aussi la plus violente. C'est qui, la Mélisse? Vous avez un modèle?
Non. ouf. Mais vous l'avez bien décrite. Effectivement, c'est une femme sorcière. C'est une femme. C'est la femme mère aussi. C'est la mère du petit groupe qui va se constituer. Mais c'est plus que ça. C'est l'inspiration. C'est la muse, en fait, qu'on va suivre dans ce grand délire qui est Brûlé debout.
Combien de morts? dans cette traversée du pays?
Je ne sais pas. Je ne les ai pas comptés.
Un certain nombre.
Il y en a quelques-uns.
Il y en a beaucoup. Et ils vont, au fil des villes, au fil des étapes, au fil du temps, au fil des pages de votre roman, Mathieu Blais, finalement, devenir des révolutionnaires. C'est-à-dire toucher à quelque chose qui pourrait être une idéologie avec la volonté de réveiller la volonté de vivre. Comme s'il fallait en passer par là pour retrouver du sens.
Effectivement, ils vont devenir des révolutionnaires, mais je dirais malgré eux, parce qu'encore une fois, ils n'ont pas de projet politique et ils vont se faire noyauter, ils vont se faire récupérer par une mouvance révolutionnaire de laquelle le personnage principal, François d'Octobre, va se retirer. Il ne sera pas bien avec ça. Et finalement, lui qui me semble le plus important, c'est ce personnage principal qui, à la fin, et je pense au rien dévoilé là, en le disant, mais qui va finir par se retirer dans le territoire et qui va voir que sa mission, sa réelle mission, c'est de protéger la nature et d'en être uniquement que le gardien. Parce que c'est encore peut-être ce qui fait le plus de sens aujourd'hui, après être passé par toutes les phases de cette violence-là, de cette prise en charge du territoire, de cette libération de cette violence-là. Parce que c'est un hybris qui libère un orgueil démesuré. Et à partir de là, ils vont se replier vers le territoire. Il y en a un qui va se replier vers le territoire. Et là, à partir de là, il y a peut-être l'idée d'un espoir qui va naître.
Et c'est en effet le narrateur, c'est François d'Octobre, qui, vous l'écrivez dès le début, est le seul survivant, parce qu'ils vont tous être assassinés, tous meurent.
Oui, oui, mais effectivement, c'est pas un livre militant, c'est pas un livre qui propose un projet politique, c'est pas un livre qui donne beaucoup d'espoir là, pour la suite, mais c'est un livre qui fait un Polaroid, qui prend une photo, je pense, de l'époque, et après ça, qui la traduit en fiction, qui en fait un livre où on veut un road novel, là, on avance dans la route et on suit ces bandits, puis on est tiré à sa suite. Et je pense que ça se joue beaucoup dans la poésie, que j'ai essayé de mettre en place, une langue, je reviens à la langue, qui est là, mais en fait, je pense, là, qui va nourrir beaucoup le propos.
Alors, c'est vrai que c'est un roman tout à fait haletant, c'est vrai que la langue est très très présente, mais ça reste un roman noir au sens strict du terme. L'humanité pourrit debout, dit le narrateur, et il ne le dit pas une fois, il le dit plusieurs fois dans le roman et il le dit dans les dernières lignes même. Oui. L'humanité pourrit debout. Quel constat?
Mais en fait, je crois, si je peux me permettre, qu'on est effectivement dans cette idée de l'anthropocène. Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'idée de l'anthropocène, cette espèce d'ère géologique où on arrive à la fin de cette humanité extractrice, où on se rend compte effectivement qu'on est en train de s'empoisonner. On empoisonne l'air, on empoisonne la terre, on empoisonne les rivières. La nature va pas bien du tout. Alors effectivement, l'humanité n'est peut-être pas la bonne équipe dans laquelle on a joué. Mais après ça, si on ne choisit plus l'humanité, dans quelle équipe on se retrouve?
Question. Mathieu Blais, j'aimerais que vous nous lisiez un extrait de votre roman. C'est donc François d'Octobre, le narrateur, qui parle. Et il parle après les faits. Donc, il se souvient de cette épopée, de cette traversée dans le pays et de tous ces morts qu'il a provoqués avec ses camarades.
Les concessions, Barouque, Saint-Christ du Martyr, Vanier Station et toutes les autres barrières qui se sont élevées pour nous empêcher d'avancer. Les villes qu'on a traversées à la vitesse d'une balle, à ne plus savoir aujourd'hui, à ne plus comprendre ce qu'on a fait. Le moment qui rayonne blanc incandescent ne dure qu'un très court laps de temps. Sa vivacité n'existe plus après, sinon que succinctement, comme un souvenir, une réminiscence. Et pourtant, je les revois dans la brume et la fumée, à se frayer un chemin dans la tôle froissée, attirés par les fenêtres du Dodge Caravan. Gagnon et Yacine et Toussaint et Chiquan et moi, un autre moi, un moi en devenir, avec la mélisse qui hurle sa vie et nous qui nous galvanisons, nous qui hurlons à sa suite. Les chiens ont soif et la gang du Nord roule ses drums, fait résonner ses tambours. Le cœur qui bat sur le champ de bataille, avec en face de soi la gueule casquée des bœufs et des militaires, mieux équipés et plus gros que nous, mieux organisés et plus entraînés que nous, mais sans la détermination, sans la rage, sans l'histoire. Nos cœurs qui battent à ce moment-là n'existent qu'à ce moment-là. C'est une dope brutale, une accoutumance engageante. Entre amour et colère hier, entre amour et colère aujourd'hui, l'oubli. Entre amour et colère, le corps véhicule, le corps tank. Et moi, brûlé debout jusqu'aux racines.
Brûlé debout, on entend Mathieu Blé dans votre voix, dans votre énoncé, la colère du narrateur. D'où elle vient cette colère pour vous?
D'où elle vient la colère du narrateur? Elle vient d'un... Je vais faire des comparaisons avec certains événements. Peut-être que je m'avance, mais en tout cas, vous me corrigerez. Avec peut-être ce qui a animé les Gilets jaunes. Avec peut-être ce qui a animé au Canada, on a eu le convoi de la liberté, où c'était des camionneurs qui sont venus bloquer Ottawa. Peut-être ce qui s'apparente aussi à ce qui a animé une certaine foule qui est allée à l'insurrection du Capitole. Je pense que c'est une colère qui est dans l'air du temps, qui est là et qui, encore une fois, ne trouve pas de voie, de projet politique. Alors, ma place, elle est bien claire. Progressiste qui va transformer le monde positivement pour que les choses changent positivement et qui, tout à coup, trouve des voies, des veines d'accès plus dramatiques, plus violentes.
En ouverture du livre, il y a une citation de Frantz Fanon. « Comment passons-nous de l'atmosphère de violence à la violence en action ?» Et il résume sa pensée ou sa question. « Qu'est-ce qui fait exploser la marmite ?» Vous avez la réponse ?
Non, je ne sais pas ce qui fait exploser la marmite, un écœurement, assurément. Moi, je mets une période, c'est la pandémie. J'ai l'impression qu'il y a un avant-après pandémie, ça c'est sûr. Mais par rapport à notre fatigue commune, collective, et peut-être que je m'avance, peut-être qu'il y a effectivement un lien entre le Québec, les Amériques, l'Europe, l'Occident en général, on est rendu là à une usure de nos institutions. Encore une fois, c'est quand on voit ce qui se passe aux États-Unis avec Trump qui gonfle les muscles et qui trahit des principes fondamentaux autour de la liberté, de la démocratie, et qui le fait avec rapidité, violence, et qui force tout le monde à se réorganiser. Je pense qu'on est là, on est dans ce livre-là qui savait pas ce qui allait se passer, mais qui se fait rattraper par l'actualité parce que c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps.
Mais on n'y est pas tout à fait, parce qu'il n'y a pas de bande comme ça qui traverse et ravage un pays. Ça veut dire que la marmite a explosé, les Gilets jaunes, ou va exploser?
Eh mon Dieu, je pense qu'elle n'a pas explosé encore et je ne l'appelle pas. Hein, c'est pas un livre qui fait l'apologie de la violence. Encore une fois, c'est l'image du Polaroid. C'est une photo. On a encore le temps de se sauver de ça. Et c'est là que la trace d'espoir. L'espoir, il réside dans la défense. J'en suis convaincu de cette nature, mais une défense qui doit se faire d'une manière peut-être plus radicale. Est-ce qu'il va nous falloir une pandémie écologique pour nous amener à ce constat-là? Probablement, c'est ce qui va arriver. Alors, c'est la théorie du pire. Je ne veux pas l'invoquer gratuitement comme ça, mais la théorie du pire, c'est ça. Il faut que le pire arrive pour que tout à coup, on se réorganise.
Mais à ce roman, vous avez collé l'étiquette de conte.
Oui.
Pourquoi?
Parce qu'on est effectivement dans une allégorie, on est dans quelque chose qui touche, on en parlait à Bruxelles, qui touche à l'universel. Je pense que les personnages, on pourrait les imaginer un peu comme dans une fable de La Fontaine, avec des visages d'animaux. Gagnon pour avoir une tête de chien, l'autre une tête de renard. On serait dans un conte. Il y a quelque chose qui se veut aussi de la fiction. J'assume cette part de fiction. Donc, c'est pas, je dis, le Polaroid sur les grands thèmes, mais c'est en même temps pas une figuration du réel. On est donc le conte, je l'assume, mais c'est un conte de la table rase. Donc, conte de la table rase, donc on en appelle à jeter à terre tout ce qui existe et à se poser la question, qu'est-ce qu'on va garder une fois qu'on aura tout jeté à terre? Encore une fois, je me rabats sur la nature. C'est le territoire, c'est la nature, c'est la seule chose.
Donc, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un appel à la révolution?
Pas encore. Attendez le prochain tome.
Alors, quel que soit le mot, l'étiquette, il y a chez vous quand même, je trouve, un rejet de la norme et de l'uniformité. Vous mettez d'ailleurs en avant la diversalité. Et en ce sens, la langue, et j'en reviens à la langue, peut être un instrument politique.
La langue est un instrument politique. Au Québec, la langue est un instrument politique. C'est sûr, on la défend et si on arrête de la défendre, on disparaît. C'est aussi clair que ça. La diversalité, pour moi, c'est la base. Et là, c'est peut-être un trait nord-américain ou américain, mais c'est cette idée de puiser à toutes ces expériences de vie qui ont fondé les Amériques, en fait. Et du moment qu'on conscientise ça, c'est l'esprit créole, un esprit qui tire à sa suite tout plein d'acquis, mais qui ont été forcés à vivre ensemble sur un territoire qui est immense et qui est fantastique, mais qui ne nous appartient pas, ou enfin qui a plusieurs propriétaires et qui se font la guerre encore aujourd'hui.
Le goût de la langue, alors je trouve que cela est propre, en effet, vous dites, à la littérature des Amériques, mais aussi à la littérature québécoise. Il y a quelque temps, je recevais Monique Proulx, qui a reçu le prix des 5 continents de la francophonie pour son roman « Enlève la nuit », et de la langue, des anglicismes, voilà ce qu'elle en dit.
J'aime pas les anglicismes. J'aime les néologismes, et je trouve qu'il y a une grosse différence. Un néologisme, c'est un enrichissement à la langue. Un anglicisme, c'est comme une perte, en quelque sorte. C'est comme un aveu d'impuissance. Comme, par exemple, nous, on emploie le mot courriel pour dire mail. On dit toujours la fin de semaine, on ne dit pas les week-ends. Il y a des mots qu'on refuse, des mots anglophones qu'on refuse. Donc, de la même façon, on aime bien faire danser un peu la langue.
Danser la langue, je trouve que c'est une formule absolument extraordinaire, Mathieu Blais. Et elle vous va bien, d'ailleurs.
Ben, merci.
et d'ailleurs, vous aussi, vous faites des néologismes. Alors, est-ce que ce sont des néologismes ou des anglicismes? À un moment, j'ai lu, ça m'a fait sourire, on l'a watché. Verbe watch, regarder, on l'a watché. Non, c'est pas
mais
ça?
Oui, non, vous l'avez très bien watché, mais du verbe watcher, du verbe to watch, là, en anglais. Donc, on récupère l'anglais, on le détourne. Alors, moi, je vois un détournement. En fait, je vois une appropriation. C'est pas juste un anglicisme, c'est un mot qui a été construit. Un néologisme, donc, sur une racine anglaise. Et ça fait un mot qui est terriblement beaucoup utilisé au Québec, ça, c'est sûr. Et il y en a plein, en fait, la langue en est truffée. Moi, je trouve ça intéressant parce que ça montre aussi les alluvions de l'histoire qui sont dans cette langue-là. On a été colonisés par les Anglais. Sur nos billets de banque, c'est le roi d'Angleterre qui est là. Ça fait partie de notre histoire. Donc, quand on a ces mots qui sont consonances anglaises, ça nous rappelle aussi cette idée-là, ce fil qu'on peut suivre, d'une part avec notre histoire coloniale, mais d'autre part avec notre voisin américain. On est baigné dans une mer anglophone, à laquelle on emprunte beaucoup, mais on détourne ces expressions, on les invente. Il y a quelque chose de bien aussi, je pense, là-dedans.
Et puis, vous aimez la liberté, parce que je ne sais pas si c'est le sujet de ce roman Brûlé debout, cette épopée, cette espèce de western à travers le Grand Nord, ou si c'est votre langue, mais vous lisant, j'ai quand même eu un sentiment de très grande liberté qui s'amplifiait au fil des pages, en plus.
Mais la liberté, c'est assurément une partie très importante du roman, mais c'est assurément un objet que je chéris énormément. Un objet, c'est peut-être pas le bon mot, mais un objectif que je chéris énormément. Je pense que ça vient avec le territoire que j'habite, que nous habitons au Québec. C'est un territoire qui est tellement immense, qui est tellement beau, qui est tellement grand, qui l'appelle à cette liberté-là, qui l'appelle forcément à l'aventure, qui l'appelle forcément à sortir de son espoir, cet espace un petit peu fixe et sédentaire pour aller à la rencontre de l'autre. Et c'est là qu'elle s'enracine, cette liberté-là. C'est-à-dire un espace où il n'y a ni loi, ni règles. Aller dans le bois, si vous venez dans le bois avec moi, dans ma petite cabane, là, vous allez voir, là, ni loi ni règle, on fait ce qu'on veut. Et c'est le grand, grand, grand plaisir.
Mais c'est le propre de la liberté, de la littérature, pardon. La liberté, c'est le propre de la littérature québécoise. Je fais une généralité ou c'est une question trop générale, mais...
Oh, non, probablement pas la littérature québécoise en général. La mienne, assurément, mais pas en général. Mais c'est une topic qu'on va retrouver chez plein d'auteurs, c'est sûr. Dès qu'on se coltaille un peu au territoire, c'est sûr qu'elle va émerger. Et ça, depuis longtemps, là, depuis le 19e siècle. Ah oh, ouais, facile.
On se coltaille?
Oui. On se bagarre.
On se coltaille. Merci beaucoup, Mathieu Blais. Brûlé debout est édité chez De Noël. Est-ce qu'on pourra lire les autres livres, ce que vous avez écrit avant, ou c'est un contrat pour One Shot?
C'est One Shot pour l'instant, mais écoutez, je suis ouvert à toutes les offres. Hein, donc, on va voir, la suite s'en vient.
Merci beaucoup. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. On se retrouve demain, bien évidemment, même heure, même fréquence. Et d'ici là, vous pouvez nous écouter sur les réseaux sociaux, rfi.fr et l'application Pure Radio.